sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et on a le plaisir de retrouver encore ce midi son président, directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, on a un invité en studio pour notre sujet du jour qu'on va présenter dans quelques instants, mais avant de le faire, je tiens à rappeler aux auditeurs qu'il est possible de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et en cliquant sur « Poser vos questions ». Ou sinon, on peut transmettre ces questions par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Mais avant de dévoiler le nom de notre invité, on garde le suspense. Donc, on aime revenir sur l'actualité, Donald. Puis, je pense que tu as été participant, panéliste à un congrès, un événement Evolution, je pense, la semaine passée.
Oui, il y avait un événement la semaine passée à Trois-Rivières. Donc, Evolution, c'est autour de l'hydrogène, évidemment. Et puis, le panel sur lequel j'étais, c'était tourné autour de l'acceptabilité sociale. J'ai eu la chance de participer à ce panel-là, quelqu'un de la France, quelqu'un de l'Amérique du Sud aussi. Donc, ça a été intéressant. Puis, c'est sûr que ça a été une occasion aussi d'échanger avec la salle, parce que quand même, bon, je dois le dire, il y a des trucs qui se font à Bécancour qui sont assez audacieuses, ou en tout cas qu'on n'a pas vu ailleurs encore, là, le fameux tourisme industriel, l'émission d'aujourd'hui est un peu là aussi pour parler de ce qui se passe à Bécancour, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui arrive chez eux. Et donc, ça a été quand même un panel intéressant, que j'ai participé la semaine passée.
Donc, une belle vitrine pour le parc industriel.
Oui, une belle vitrine, et puis toujours des parallèles à faire, puis l'acceptabilité sociale, c'était comme tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est réellement? Mais moi, je pense plus c'est beaucoup d'être dans l'action. Plus que d'en parler, il faut faire des actions concrètes. Et puis, c'est un peu le point de vue que j'ai tenté d'amener.
De l'action et de l'information. Donc, informer les gens, ce qu'on fait ce midi, chaque semaine avec le parc en 30 minutes. Et dans les derniers jours, autre actualité, on apprenait dans le Nouvelliste que Bécancour, avec Shawinigan, serait priorisé pour recevoir un centre d'innovation dans le cadre de la vallée de la transition énergétique. On parle même d'un projet de 135 millions dans le cas de Bécancour. On évoque une annonce d'ici le début de 2026. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir le centre d'innovation s'installer dans le parc ou pas nécessairement?
C'est sûr que ça fait partie des plans. Alain Lemieux de la vallée de la transition de l'énergie était à l'émission ici au printemps. Et puis, on parlait déjà un peu du besoin de ce centre-là, parce que, tu sais, on expliquait à ce moment-là que de faire des essais avec des grammes et des kilogrammes en laboratoire, c'était bien, mais avant de passer à mettre ça à l'échelle de production d'une usine, il fallait avoir un endroit pour être capable de traiter des tonnes. Et puis, le centre d'innovation, ça va un peu dans cet esprit-là, d'être capable d'avoir un intermédiaire pour gérer le risque. Parce que, tu sais, de faire des essais en laboratoire puis d'investir des millions ou des centaines de millions dans une usine, ça prend un intermédiaire. Et c'est pour ça que le centre d'innovation est poussé. Mais il faut quand même se dire les vrais trucs, là. Tu sais, donc, oui, il y a un article, oui, il y a une annonce. Mais donc, s'il n'y a pas d'annonce encore, c'est parce qu'il faut encore démontrer la pertinence du dossier et puis attacher des trucs. Fait que donc, le gouvernement s'attend à une participation du privé là-dedans. Donc, le gouvernement ne défraiera pas l'ensemble des dépenses associées à un centre comme ça. Puis je pense que ça va bien. Là. Tu sais, si Alain était ici, il nous dirait « Oui, Donald, ça va bien, j'ai des gens qui sont intéressés, mais il faut quand même pas négliger ça. » Tu sais. Donc, on a vécu trop souvent, mais qu'en cours des fois, des annonces, puis pas de travaux. Fait que c'est pour ça que je veux nuancer que le dossier est encore à attacher.
Donc, c'est à suivre, un beau dossier la planche à dessin.
Là. Oui, c'est parce que ça fait un autre atout pour Bécancour. Tu sais, donc, on peut accueillir des usines, mais là, les usines en place pourraient se servir de ce centre-là pour raffiner leur technique, leur technologie, et des nouveaux joueurs pourraient arriver à Bécancour aussi via ce centre-là.
Mais là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est installé, qui est là, qui fonctionne. Et je te laisse le plaisir de nous présenter notre invité d'honneur.
Oui, donc à Bécancour, on a un parc industriel, mais on a un port. Et puis le port est quand même très achalandé en période estivale. Et puis, il y a les entreprises du parc industriel qui ont des procédés industriels qui utilisent le port. Mais vraiment, il y a une partie vraiment importante qui est ce qu'on appelle le cargo du Nord. Donc aujourd'hui, notre invité, c'est Daniel Dagenet du groupe NEAS.
Bonjour.
Bonjour Daniel. Alors, bienvenue à notre émission Le Parc en 30 minutes. Alors, ce sera une belle occasion de faire connaître justement le groupe NEAS. Bon, peut-être, y aller avec les informations de base que les gens veulent savoir. Daniel, c'est bon, l'année de fondation de l'entreprise, ça a été créé quand? Puis depuis quand vous êtes à Bécancour?
Bien, l'organisation est dans sa forme actuelle depuis à peu près 14 ans avec les actionnaires qui sont en place, mais l'organisation réellement a commencé par d'abord deux actionnaires fondateurs qui naviguent dans l'Arctique et qui font en fait un peu le créneau d'affaires qu'on est dedans depuis plus de 50 ans. Et puis au cours des années, il y a eu des amalgamations, il y a eu des partenariats. Il y a à peu près 30 ans, deux organisations fondatrices, deux actionnaires fondateurs se sont joints ensemble pour créer Nanook, Nanook Transport. Donc, les racines à Trois-Rivières et à Bécancour, elles existent depuis très longtemps parce qu'à l'époque, déjà, Logistec Navigation a fait partie des actionnaires fondateurs. Et donc, la grande famille Paquin, que vous connaissez ici souvent sous le nom de Logistec ou Somadrac, ça fait partie de nos actionnaires fondateurs qui sont toujours présents d'ailleurs dans l'organisation. Et puis, il y a à peu près 15 ans, déjà, McKivick est venu joindre à l'organisation pour devenir actionnaire majoritaire. Donc, McKivick est une organisation Inuit qui veille à améliorer la qualité de vie des résidents du Nord. Donc, nous, on est venu s'installer de Valleyfield. On est venu s'installer ici à Bécancour en février 2021 déjà. On est venu prendre, on a acheté un grand terrain d'à peu près 1 million de pieds carrés dans le parc industriel avec un bâtiment existant. Qui était une ancienne fabrique de panneaux solaires. Et on a, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, redonné vie à ce bâtiment-là, en fait, à ce complexe de bâtiments, parce qu'on en a plusieurs, on en a trois sur le terrain, à laquelle on a ajouté un espace bureau et où 70 personnes travaillent tous les jours.
Oui, parce qu'effectivement, dans ce centre-là, il y a de la marchandise qui arrive et vous devez retravailler cette marchandise-là pour qu'elle puisse être chargée sur les bateaux. Fait que donc, c'est pas juste les débardeurs, hein. Il y a vraiment des gens qui travaillent dans ce centre-là.
En effet, nous, on a vraiment deux sites de travail dans le secteur, très bien dit. Il y a le parc industriel où on a notre centre de conditionnement des marchandises, où on fait l'emballage. Donc ça, c'est ce que le CSC, ce qui est vu ou ce qui est possible de voir à partir de l'autoroute 30. Puis naturellement, aussi, on a des employés directement sur le terminal qui, eux, font le lien entre la terre et la mer pour veiller aux opérations de chargement et de déchargement des navires dans le port.
Oui, puis peut-être juste pour les auditeurs qui se demandent où sont leurs bureaux, c'est vraiment tout juste à l'est de SKW. Donc, d'accord. Vous êtes voisin d'SKW.
Oui, effectivement. Visible. Lorsque la météo le permet, puis lorsqu'on a surtout beaucoup de conteneurs bleus, là on est comme visible à partir de l'autoroute.
Est-ce que votre présence à Bécancour, c'est une expansion du groupe NEAS ou, vous avez déménagé des opérations d'une place à l'autre ou c'est une expansion ou des nouveaux services que vous aviez senti le besoin de développer?
Il y a eu plusieurs objectifs stratégiques qu'on poursuivait par le déplacement vers Bécancour. Le premier, c'est les installations portuaires. La qualité des installations portuaires, déjà, même si aujourd'hui on fait face à des projets de renouveau puis d'agrandissement, ce qui est en fait plaisant à voir puis qui est merveilleux. Mais la qualité était déjà là, plus de profondeur d'eau aussi, bien entendu. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a internalisé beaucoup des fonctions qu'on a aujourd'hui à Bécancour. À l'époque, on faisait appel à des sous-traitants, des entreprises qui faisaient tout ce travail-là pour nous. Aujourd'hui, on a internalisé ces fonctions-là. On a un meilleur contrôle sur la qualité. On devient nous-mêmes un employeur du secteur, donc de la région. Fait que ça, pour nous, ça nous a aidés. Il y a aussi tout l'élément d'entretien mécanique aussi qu'on a aussi internalisé. Fait que donc, pour nous, c'est déjà deux éléments qui sont importants. Le troisième, qui est souvent celui que les gens ne voient pas véritablement, c'est que notre clientèle, elle est essentiellement dans la région aussi. Nos clients vont chercher des marchandises et des matériaux qui sont accessibles à partir du centre du Québec. Donc, en périphérie de Montréal, c'est bien, on est au centre économique de la province, j'achète. Par contre, la réalité, c'est que des matériaux de construction, le bois d'œuvre, les panneaux de gypse, par exemple, peuvent être très bien livrés ici de façon plus efficace. Des modules, des bâtiments préfabriqués sont beaucoup plus facilement livrés dans cette région qu'en périphérie de Montréal, par exemple.
Oui, puis Montréal, où vous étiez avant, ben, je pense que vous faites encore peut-être un peu de transport là-bas, mais donc, évidemment, c'est un peu plus loin. Et puis, il y a au moins une écluse, je crois, qui te séparait du fleuve. Ouais. Donc, c'est veut pas pour vous, c'est une complexité de plus ou une simplification aussi de par le positionnement géographique de Bécancour.
Bien, il y a un élément temps, naturellement. Ouais. Et comme ces navires-là ont tendance aussi à consommer du carburant, bien, naturellement, tout le temps qu'on sauve sur l'eau, c'est bien. Il y a l'élément pilotage, bien entendu, puis il y a la porte d'entrée. Donc, les écluses de Saint-Lambert sont effectivement un point de contrainte. Donc, on doit négocier ou attendre son temps d'attente pour rentrer ou sortir. Donc, ça crée beaucoup de perturbations dans nos cédules de livraison.
Donc, Daniel l'a évoqué quand même, ça s'inscrit aussi dans la modernisation du port, dont ça a été le sujet de l'émission la semaine passée. Donc, il se passe beaucoup de choses au port, mais avec le groupe NEAS, mais aussi avec la modernisation qui s'en vient.
Bien, c'est sûr que la modernisation est bienvenue par tous les joueurs du port, parce que c'est comme, il y a une période vraiment stressante, là, tu sais, de début juin à milieu, fin octobre, avec le cargo du Nord. Et puis, évidemment, en dehors de cette période-là, il y a un peu moins de congestion. Mais c'est sûr que l'ajout du B6, la modernisation du port, va faciliter la vie à tous les intervenants, dont NEAS aussi.
Combien de navires chez vous, là, à Bécancour?
Cette année, on exploite 7 navires. 6 sont à notre propriété. 1 a été loué pour la saison.
Mm-hmm.
Effectivement, un des enjeux qu'on a durant l'été, c'est notre modèle d'affaires qui nous oblige à être là seulement entre juillet et octobre-novembre. Donc, ce qui fait qu'on a tendance à tout concentrer dans la période estivale.
Oui, modèle d'affaires qui est aussi relié au climat ou en tout cas à la température, là, que je pense que tu aimerais beaucoup quand même être capable d'étendre ta saison, mais tu aurais des enjeux de glace. Hein?
Oui, bien, il y a les enjeux de glace, il y a aussi l'incertitude. C'est sûr, il y a le réchauffement planétaire qui touche naturellement l'Arctique comme il touche le sud du Québec aussi. C'est clair. Mais ce que ça amène pour nous, au-delà de la température, mettons la température de l'air qui est plus chaude, c'est un peu plus d'insécurité sur la présence des glaces, par exemple, qui ont tendance à se briser puis à devenir un peu plus friables. Donc, les glaciers se cassent, les morceaux de glace flottent et naturellement, ils deviennent des enjeux de navigation pour nos navires. Surtout, ce sont des glaciers de multiples années. Donc, c'est une glace qui est encore plus solide, qui cause des maux de tête pour nos navigateurs, nos capitaines, qui doivent être constamment à l'affût de ces morceaux de glace-là. Et naturellement, comme l'eau est toujours froide, mais que l'air est chaud, ça amène de la perturbation. Fait que donc, il y a du vent. On en parlait avant l'émission un peu. Un des enjeux qu'on a à cause de notre modèle d'affaires qui est assez particulier puis unique dans le monde, c'est la question de la livraison, de la prestation de service avec une barge et des remorqueurs. On est entièrement autonome. Nos navires doivent jeter l'ancre en approche d'une communauté, décharger leur barge et leur remorqueur pour aller échouer leur barge sur la plage. Si la glace, elle est brisée, puis elle est poussée par le vent vers la plage, bien, l'accès à la plage est bloqué. Et puis là, on ne peut pas faire le service à la communauté. Et bien, des fois, c'est critique parce que les navires vont qu'une seule fois dans une année. Donc, tous les matériaux, les produits qui ne peuvent pas prendre l'avion, mais qu'on amène avec nous sur nos navires, ne peuvent pas aller vers la plage. Fait que donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur notre côté pour s'assurer qu'effectivement, on va être là au bon moment.
Des lieux desservis avant d'aller à la pause, on dessert quelle région?
On dessert le nord du Québec, le Nunavik, mais l'ensemble du Nunavut aussi. Donc, une cinquantaine de communautés en tout et partout, dont certaines qui sont essentiellement des communautés minières.
D'accord. Puis aussi, bon, avant d'aller à la pause, on a le temps de voir un petit peu quel genre de marchandises qu'on transporte chez vous, là.
En fait, on peut s'imaginer un peu le contenu d'un magasin général. Donc, tout ce qui a rapport avec la nourriture, mais naturellement, un magasin général dans l'Arctique, ça comporte aussi des véhicules 4x4, des ATV, tout ce qu'on aurait besoin pour faire la chasse, des motoneiges, entre autres, donc tout ce qu'on a besoin pour la survie dans l'Arctique. Au même moment, naturellement, il y a un cruel besoin de résidence, il y a un cruel besoin d'habitation résidentielle dans l'Arctique, donc des matériaux de construction. On peut parler de bois, d'isolation, des équipements électriques de chauffage, porte-fenêtre et tout, mais on va jusqu'au modèle, au module préfabriqué en entier qu'on va expédier vers l'Arctique. Naturellement, il y a tout ça, bien, ça prend aussi des excavatrices, des souffleurs à neige, des pelles, des chargeurs. Donc, beaucoup de machinerie aussi vont vers l'Arctique, des camionnettes, des motos, en fait. Il y a un peu de tout, là. C'est vraiment varié.
Oui, puis je suis allé visiter le centre, on appelle ça centre de distribution?
Oui, un centre logistique. Là, on est en train de changer.
Parfait, votre centre logistique, la personne qui était là avant toi, Suzanne, m'avait invité, puis c'est vraiment impressionnant. T'sais. Donc, tout ce que Daniel décrivait, je l'ai vu en marchant dans le centre. Toutes les denrées non périssables, les matériaux de construction. Dans le fond, les gens, imaginez-vous tout ce que vous allez acheter dans une année ou dans les 2-3 prochaines années, ben, les communautés nordiques ont pratiquement les mêmes besoins. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et puis, ce qui m'avait aussi impressionné, c'était de voir le travail que vos équipes font, parce que c'est pas parce que c'est arrivé dans un contenant qu'il faut pas, faut comme tout, excusez le terme, repackager. Là. Ouais, et donc, tout refaire ça pour que ça puisse être manœuvrable, manutentionnable pour aller dans le navire.
Ouais. Donc, écoutez, il y a beaucoup de sujets fort intéressants qu'on a vus jusqu'à présent, mais on a encore d'autres sujets après la pause, dont les emplois pour les Inuits aussi, puis la transition énergétique, la protection de l'environnement à travers tout ça. Et aussi, on rappelle aussi que on a avec nous Daniel Dagenais, donc qui est du groupe NEAS, le président directeur général, hein? C'est bien ça. Donc, on vous attend pour après la pause, hein, posez vos questions. Et après la pause, si on a reçu des questions, on vous répondra. Mais c'est encore le temps d'en poser. Alors, en nous contactant via .fm, onglet Le Parc en 30 minutes, en cliquant sur posez vos questions, 819-519-9050. Après la pause, on se retrouve.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Alors, nous sommes de retour avec Daniel Dagenais, président directeur général du groupe NEAS. Et Donald, je pense que tu avais une petite précision que tu aurais aimé que Daniel nous apporte.
Oui, bien, tout à l'heure, on a parlé rapidement. On a nommé l'entreprise ou l'organisme Makivik, mais j'aurais aimé ça t'entendre parler un peu plus parce que moi, j'en connais un petit peu, mais pas beaucoup. Puis Makivik, c'est quand même un joueur important dans le nord du Québec.
Oui, effectivement. Oui, donc, Makivik est né, en fait, du traité de la baie James. C'est le véhicule, si on veut, en quelque sorte, le bras d'investissement pour les fonds qui ont été donnés et cédés aux Inuits du nord du Québec. Et puis, la fonction première de Makivik, c'est de faire des investissements, pas des envois d'argent direct à la population, mais plutôt de se doter d'agents ou de se doter d'organisations qui améliorent la qualité de vie. Donc, Makivik est actionnaire, par exemple, de lignes aériennes. Pourquoi? Bien, parce que lorsqu'on n'est pas là, sur les côtes, et qu'on ne fait pas la livraison des marchandises, bien, le relais est assuré par des avions, par exemple. Et entre communautés, mais aussi pour faire le lien avec le Sud, naturellement, on prend obligatoirement un avion. Fait que donc, Makivik s'est investi dans des lignes aériennes, de la même façon que, il y a 14 ans, ils se sont aussi investis avec des fonds et qui sont actionnaires majoritaires du groupe NEAS.
Oui, donc on parle souvent des Premières Nations ou les Inuits qui veulent une genre d'autonomie ou d'indépendance économique. Fait que c'est des gestes comme ça qui tend à aller vers ça. Et tout à l'heure, je ne sais pas si les auditeurs ont réalisé, mais tu parlais de la famille Paquin. Fait que donc, NEAS, c'est oui, Makivik à 50%, mais l'autre, c'est des Québécois aussi qui sont investisseurs derrière NEAS.
Oui, et qui sont toujours présents. Fait que Logistec, même si aujourd'hui la famille Paquin s'est retirée de l'organisation de Logistec, ça appartient à un autre organisme. Il demeure investi et il croit à la mission de NEAS dans l'Arctique. Fait que donc, on est là, ils sont là depuis belle lurette, là, si on veut, là, pour plus de 50 ans déjà.
Avant de poursuivre, des questions du public. Une question, que faites-vous avec les navires lorsque la saison du cargo du Nord est terminée?
Ah, ça c'est intéressant, effectivement. Mais en fait, ce qui arrive après la saison du Nord, on va changer l'enregistrement des navires, on va changer le pavillon. Donc, le navire ne devient plus canadien comme tel. Il devient, on prend un pavillon étranger. Dans les dernières années, c'était un pavillon néerlandais. Mais là, dans les prochaines années, ça risque d'être un pavillon dans les Caraïbes. Ça dépend toujours du client. Et puis, un équipage étranger embarque à bord et le navire navigue sur les 7 océans pour faire du trafic un peu partout selon le besoin. Un peu comme on appellerait un taxi, si on veut, en quelque sorte.
Autre question du public, c'est quoi la durée du trajet pour se rendre vers ces communautés du Grand Nord?
Ah, ben ça, c'est... Écoutez, on a une période forte, on l'a mentionné tantôt, là, essentiellement entre juillet et octobre. Chacun des navires va faire 3 voyages d'à peu près 6 semaines à 2 mois de durée. Fait que donc, c'est 5 mois dans la saison. Pour se rendre à la première communauté, si on veut, du Nunavik, qui est comme techniquement la première ou la plus proche, c'est plus ou moins 7 jours que ça va nous prendre. Donc, une fois qu'on passe le Labrador, la pointe du Labrador, puis on commence à revenir vers les côtes du Québec, à partir du Grand Nord du Québec, mais là, on peut prendre chacune des communautés. Puis ça nous prend à peu près une semaine de se rendre sur le site.
D'accord.
Oui, puis tu sais, les bateaux, juste faire du millage, tu sais, mettons un bateau, bon, c'est quand même assez coûteux et puis c'est un investissement quand même important. Ça fait que donc, si NEAS ne faisait pas, excusez le terme, naviguer ses bateaux l'hiver, ben financièrement, c'est pas supportable. Mm-hmm. Dans mm-hmm. un sens, c'est assez compétitif. Fait que donc, c'est une façon. L'exemple du taxi, ben, le taxi, il dit pas, moi, je travaille le lundi, mardi, mercredi, puis le reste de la semaine, je fais pas de business. Son modèle tiendra pas. Fait que, mm-hmm. c'est un peu la force des choses aussi qui vous amène à devoir rentabiliser votre actif sur 12 mois et non sur 6 mois.
Oui, bien, si on fait du pouce sur l'exemple du taxi, c'est comme si je conduis dans le jour et la nuit, j'ai un autre chauffeur de taxi qui embarque.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Fait que donc, le cœur, si on veut, de notre modèle d'affaires, de notre mission d'existence, c'est de desservir l'Arctique puis de faire le réapprovisionnement dans l'Arctique. Naturellement, lorsqu'on ne fait pas ça, bien, on se trouve quelqu'un d'autre pour faire le travail, mais ailleurs sur la planète.
De quelle façon NEAS contribue à créer des emplois pour les Inuits?
Bien, on est le seul armateur canadien à employer des Inuits à bord de nos navires. Fait que donc, on vise à peu près 10 % de notre main-d'œuvre qui vient du milieu Inuit, à la fois du nord du Québec, donc Nunavik, mais aussi du Nunavut. Il faut savoir que les Inuits sont essentiellement des chasseurs et des pêcheurs. Ils ont une grande tradition de naviguer sur les océans, sur l'eau, qui est autour de leur zone d'habitation. Fait que donc, ce sont intuitivement des navigateurs déjà, mais on va formaliser en fait cette notion-là mm-hmm. avec des cours, des formations, des perfectionnements. Fait que donc, on a des Inuits sur l'ensemble de nos navires. On est les seuls vraiment à aller jusque-là.
Oui, puis tu parlais des qui connaissaient les endroits dans le nord, mais je pense que des fois, c'est pas tout qui est cartographié. Hein, fait que probablement que la mémoire humaine est très, très utile. Et puis j'avais été visiter un bateau de NEAS à mon arrivée, puis effectivement, j'ai été témoin, j'ai vu les Inuits à bord du bateau. Donc, ils font partie intégrante de l'équipe. Là.
C'est vrai que cette notion-là, ce respect-là, en fait, de la connaissance Inuit est importante. Ça se traduit dans plein de processus, plein de vocabulaire qu'on utilise chez nous. Par exemple, lorsqu'on parle d'aller dans des communautés, on réfère à un livre qui s'appelle « Les livres de les connaissances », « The Book of Knowledge ». Ce n'est pas un manuel d'instruction, ce n'est pas un manuel de procédure. Ce sont des éléments qui nous permettent de mieux naviguer dans ces eaux-là parce que ce savoir-là a été transféré de personne en personne puis ultimement se ramasse dans nos livres.
Puis il y a des qualités à posséder pour... apprécier la vie hein, sur un navire, c'est pas quand même pas évident là, de passer des jours et des jours sur un navire. Donc, il y a des qualités vraiment à posséder. Là.
Ah, des traits de caractère particuliers. Moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui navigue, qui est chef officier sur un navire. Et puis, les gens disent « Ah, ça doit être un loner, il aime être seul. » Non, c'est quelqu'un qui est assez autonome, certes, mais qui aime l'aventure, mais qui est aussi très social. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas d'espace privé sur un navire. Les amis, vous allez déjeuner, dîner et souper ensemble pendant 5 mois de temps. Il faut trouver une façon de s'adapter, il faut trouver une façon de vivre en communauté. Fait qu'un très grand sens du collectif, mm-hmm. avec un C majuscule, c'est vraiment un des traits de caractère les plus importants. La persévérance, la débrouillardise, surtout pour l'Arctique. C'est d'autres traits de caractère super importants pour nos marins.
Oui, parce que l'équipage quand vous êtes à Bécancour, c'est pas eux qui chargent nécessairement le navire, mais quand vous arrivez dans le Nord, c'est vos équipes qui s'activent à décharger le navire, et puis c'est quand même des blitz assez intenses.
Mm-hmm. Hein? Oui, non, c'est des pointes de travail, mais c'est aussi, il y a tout le temps quelque chose. Hein? La météo, on parlait tantôt de météo, mais la mécanique se met dans le jeu aussi. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe qui fait en sorte que chaque voyage est un petit peu différent.
Puis là, je me permets une question, Daniel, personnelle, mais avec ton fils qui est dans le domaine maritime, penses-tu que tu vas être grand-père un jour? Parce que la vie familiale n'est peut-être pas facile pour les marins.
Ah, c'est encore drôle. Je pense que ça ne sera pas tellement long, mais je ne veux pas trop l'annoncer.
OK. On n'aura pas de scoop, monsieur. C'est bon. Il nous reste 2 minutes ou presque pour compléter l'entrevue, Daniel. Rapidement, le groupe NEAS, vous avez de l'intérêt pour la transition énergétique, protection de l'environnement?
Absolument. En fait, c'est une organisation qui est en fait assujettie à toutes sortes de réglementations. Donc, il y a des objectifs de développement durable, il y a des objectifs de décarbonation qu'on doit atteindre. Notre intérêt, il est peut-être un petit peu différent que peut-être d'autres. C'est sûr, pour nous, l'électrification à quai, c'est peut-être pas un modèle qui a priori nous parle, mais l'utilisation de batteries, par contre, c'est une technologie qui est de plus en plus commune sur les navires parce qu'on vient découpler mécaniquement le moteur et l'hélice de propulsion, ce qui veut dire qu'on doit accumuler la charge à quelque part pour la transmettre à un moteur électrique. Puis ça, bien, ça amène toutes sortes de changements, même, entre autres, sur nos équipements de support. On a parlé de remorqueurs tantôt, qui pourraient devenir un jour électriques. Ils seront aussi plus silencieux et plus propres. Ce qui aura aussi une notion de silence, si on veut, en quelque sorte, d'être moins perturbateur. Mais les chargeuses peuvent devenir aussi mues par batterie ou par biodiesel, par exemple.
Autre chose à compléter, Donald, avant
Pour les gens qui vivent sur le bord du fleuve, sur le bord du Saint-Laurent, majoritairement, vos bateaux sont de couleur brune.
Exact.
Et puis, souvent, on voit les deux bateaux remorques sur le dessus. Fait que donc, si vous voyez un bateau brun avec deux bateaux remorques orangés, c'est un des bateaux de NEAS.
Donc, je te laisserai, Donald, souhaiter la conclusion, là, de souhaiter le... merci d'abord à Daniel, mais je te laisse les dernières paroles avant d'annoncer ce qui s'en vient pour l'émission.
Parfait. Mais merci, Daniel, d'être venu. C'est toujours instructif pour les gens d'apprendre ce qui se passe dans le port. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre tout ça quand je suis arrivé, mais je trouve ça important que les citoyens sachent ce qui se passe dans leur cours. Fait que merci de nous avoir aidés en ce sens-là.
Bienvenue.
Merci beaucoup, Daniel. Et la semaine prochaine, ce sera une reprise d'une émission qu'on a diffusée l'an dernier, mais sur le pourquoi Bécancour. Ben, on a eu déjà un exemple aujourd'hui, pourquoi Bécancour. Mais là, on avait fait une émission vraiment spécifique là-dessus, pourquoi Bécancour. Et les mêmes raisons restent pertinentes. Donc, c'est pour ça qu'on rediffuse cette émission-là la semaine prochaine, le 13 octobre. Mais le 20 octobre, on revient en direct avec comme invité Jerry Gagnon, directeur général de Drummond Économique. Je pense, Donald, vous... collaborer, je pense, avec Drummond Économique au niveau de la SPIB.
Des collaborations qu'on pourra mettre en valeur lors de cette rencontre-là, mais effectivement, on est passé à autre chose. Et donc, régionalement parlant, on travaille ensemble et non un petit secteur contre un autre. Fait que donc, on aura l'occasion d'échanger avec Jerry à ce sujet-là.
Donc, fort intéressant. Alors, d'ici là, ben, on vous invite encore. On prend le temps vraiment de vous informer sur la façon de nous contacter. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On a Donald Olivier semaine après semaine avec des invités pour répondre à vos questions. Donc, comment faire? Vous allez sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes. Vous cliquez sur « Poser vos questions ». On peut transmettre vos questions par texto, par téléphone, 819-519-9050, 819-519-9050. Donc, vraiment, on vous encourage à poser vos questions et semaine après semaine, on est là pour y répondre, en tout cas. C'est pas moi qui réponds aux questions, c'est Donald Olivier.
Ah, mais faut les poser, hein?
Ouais, c'est bon, c'est bon. Posez vos questions. Alors, passez une belle semaine. Écoutez, on se sent quasiment encore l'été aujourd'hui. Alors, profitez de cette belle journée. Et on se retrouve dans deux semaines en direct, mais la semaine prochaine. Pourquoi Bécancour? Écoutez cette émission qui a été diffusée l'an dernier, mais qui est toujours aussi pertinente. Alors, bonne journée et bonne semaine à tous. Et à la semaine prochaine et dans deux semaines pour Le Parc en 30 minutes.